Vous écoutez, on lit pour vous.
Derrière la caméra, donner une voix aux réalisatrices au Soudan du Sud. Un texte de la rédaction paru le 28 avril 2025 sur le site de l'UNESCO. Dans l'industrie cinématographique émergente du Soudan du Sud, les opportunités de formation et de développement professionnel restent limitées. En février 2025, l'UNESCO s'est associée à la plateforme de divertissement GoGo Play, basée au Soudan du Sud, pour mettre en œuvre un programme de formation de 2 semaines à Djouba. Ce programme vise à accompagner 25 jeunes femmes aspirant à devenir cinéastes, en leur apportant une maîtrise des outils techniques et des compétences en narration audiovisuelle. Cette initiative reflète l'engagement du Soudan du Sud envers la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et constitue un prolongement concret des priorités nationales en matière de politique culturelle. Promouvoir l'égalité des genres dans l'industrie cinématographique du Soudan du Sud. L'inégalité des genres est un défi majeur. Selon le rapport de l'UNESCO, l'industrie du film en Afrique, tendances, défis et opportunités de croissance, 2021, les femmes restent sous-représentées dans le secteur audiovisuel sur l'ensemble du continent. En Afrique centrale, 98% des professionnels interrogés ont estimé que les femmes représentent moins de 10% de la main-d'œuvre du secteur. Le rapport souligne également le potentiel considérable de cette industrie, en prévoyant qu'elle pourrait créer plus de 20 millions d'emplois et générer 20 milliards de dollars américains par an, des bénéfices qui doivent être équitablement partagés. Le secteur cinématographique du Soudan du Sud est en plein essor, stimulé par l'intérêt de jeunes créateurs et par des plateformes telles que le Festival du film de Djouba, qui offre des espaces d'expression artistique. Toutefois, l'accès à une formation formelle reste restreint, en l'absence d'écoles de cinéma dédiées dans le pays. La plupart des possibilités d'apprentissage se présentent sous forme d'ateliers de courte durée organisés par la société civile ou des partenaires internationaux. Dans le cadre de son engagement national en faveur du renforcement des secteurs culturels et créatifs, le rapport périodique quadriennal 2024 du Soudan du Sud sur la mise en œuvre de la Convention de 2005 a identifié la participation des femmes et des jeunes à la vie culturelle comme une priorité majeure pour les 4 prochaines années. La formation évoquée constitue un suivi direct de cette recommandation, démontrant comment le processus de suivi national peut susciter des actions concrètes au niveau local. Formation appliquée, développement de compétences et maîtrise de la narration. Organisé à Djouba du 12 au 26 février, le programme de renforcement des capacités a proposé un cursus complet alliant théorie et pratique, permettant aux participantes de s'engager dans l'ensemble du processus de réalisation cinématographique, de la conception à la caméra. Depuis mon enfance, je suis passionné par le cinéma, et cette formation représentait une opportunité de croissance. Nous avons énormément appris, de la production à l'écriture de scénarios, en passant par le jeu d'acteur, la réalisation et la cinématographie, a témoigné une participante. La formation a été dispensée par des formateurs expérimentés, dont le conteur et journaliste Jabob Niang, ainsi que le réalisateur, graphiste et photographe Dir Matiop, entre autres. Animé par GoGo Play et tenu à l'Université de Djouba, les sessions ont permis aux participantes de bénéficier d'un encadrement personnalisé dans des domaines techniques essentiels tels que l'éclairage, le son et la post-production, tout en explorant la puissance du récit à travers une perspective sensible au genre. À l'issue de la formation, les 25 participantes ont reçu des certificats de réussite, symbolisant à la fois l'acquisition de nouvelles compétences et le renouveau de leur vocation et de leur identité professionnelle. Le programme a également favorisé l'apprentissage entre pairs, le mentorat et l'émergence de réseaux au sein de la communauté cinématographique du Soudan du Sud. Les femmes à la caméra, bâtir l'avenir du cinéma. En plaçant les jeunes femmes au cœur de ces missions, ce programme agit concrètement contre disparité de genre dans les industries créatives du Soudan du Sud et réaffirme le droit de chacun à participer à la vie culturelle. Plus qu'un simple cours technique, il représente une étape vers la réduction des obstacles structurels et l'amplification des voix sous-représentées. Nous avons contribué à l'innovation, à la créativité et à une nouvelle manière de penser au sein des industries créatives sud-soudanaises, dit Rachel Hakim, directrice générale de GoGo Play. L'idée est de rassembler des jeunes femmes passionnées et talentueuses afin de transformer leur récit et d'enrichir la production cinématographique. Cette initiative permet aux femmes, quel que soit leur milieu, de devenir des créatrices, des leaders et les meilleures versions d'elles-mêmes dans la vie quotidienne, poursuit-elle. L'initiative s'inscrit également dans des objectifs plus larges de développement des politiques publiques. Alors que le Soudan du Sud poursuit l'élaboration de cadres législatifs pour ses secteurs culturels et créatifs, y compris les projets de politique nationale pour la culture et de loi sur le droit d'auteur, l'investissement dans le potentiel créatif des femmes revêt à la fois une dimension symbolique et stratégique. En dotant les femmes des compétences, des outils et des réseaux nécessaires pour raconter leurs propres histoires, cette initiative contribue à bâtir une industrie cinématographique plus inclusive. Le Soudan du Sud est un pays partenaire du projet « Repenser les politiques pour la créativité et la liberté artistique », financé par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement, SIDA. Cette initiative soutient les pays dans l'élaboration de leurs rapports périodiques quadriennaux grâce à un dialogue participatif, des actions de renforcement des capacités et des activités de suivi visant à mettre en œuvre les recommandations politiques. C'était « Derrière la caméra, donner une voix aux réalisatrices au Soudan du Sud », un texte de la rédaction paru le 28 avril 2025 sur le site de l'UNESCO.
Plus de détresse chez les itinérants, selon des intervenants. Un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 7 mai 2025 dans La Presse. Ce qu'il faut savoir, la STM a interdit le flânage dans le métro entre le début mars et la fin avril 2025. Des intervenants craignent que la mesure aujourd'hui levée ait fragilisé davantage certaines personnes. La STM avait justifié la démarche par le fait que de plus en plus d'usagers ne se sentent pas en sécurité dans son réseau. L'interdiction du flânage dans le métro de Montréal a augmenté la détresse des personnes itinérantes et la fréquence de comportements agressifs, estiment des travailleurs de rue. Ils craignent d'avoir perdu la trace de plusieurs sans-abri. Les gens qu'on accompagne, ils se sont sentis rejetés. Ils ont vécu encore plus de stigmatisation, ont eu l'impression d'être chassés de la société, puis exclus de partout, même de la rue, lance la DG du Regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue, ROCQTR, Audrey Sirois. Son groupe dit avoir sondé ses membres de Montréal, dans les derniers jours afin de dresser un bilan des mesures d'exclusion maintenant levées. Résultat, les travailleurs de rue relatent une croissance importante de la détresse chez les personnes itinérantes et une augmentation des comportements agressifs. Début mars 2025, la presse a révélé que dormir sur les quais ou les bancs du métro ne serait plus toléré en raison de l'explosion de l'itinérance. La mesure, prenant la forme d'une obligation de circuler, a été en vigueur jusqu'au 30 avril 2025. En promettant que le métro demeurera inclusif, la Société de transport de Montréal, STM, avait justifié le tout par le fait que sa mission première, celle de transporter des gens, était mise en cause par le fait que de plus en plus d'usagers, presque la moitié, ne se sentent pas en sécurité dans son réseau. Or, pour plusieurs itinérants, le sentiment d'incompréhension, à savoir qu'ils devaient quitter les lieux, même quand ils ne dérangeaient pas, a été source de frustration, selon Mme Sirois. On a remarqué que ce sont les personnes nouvellement à la rue qui étaient le plus affectées, puisqu'elles étaient les moins habituées à se faire déplacer et ne savaient pas vraiment où aller, poursuit-elle. Intervenir sera plus difficile qu'avant. Au-delà des impacts ressentis dans le métro, la mesure interdisant le flânage a aussi fait en sorte que des sans-abri ont perdu leurs repères, affirme la gestionnaire. Plusieurs ont été déplacés sans savoir où aller, ce qui a complexifié notre travail. Quand on sait où sont ces personnes-là, qu'on connaît leurs habitudes, ça facilite notre travail. Là, bon nombre d'entre elles sont plus difficiles à retrouver, poursuit Audrey Sirois, qui ne cache pas son inquiétude à plus long terme. Elle n'est pas la seule à s'inquiéter. Annie Savage, directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, RAPSIM, aussi. Les personnes qu'on a déplacées et qu'on a perdues de vue, ça va être encore plus difficile d'entamer des démarches maintenant vers une amélioration de leurs conditions de vie. Ça donne encore moins d'espoir de les sortir de l'itinérance, explique Mme Savage, qui s'était opposée au plan de la STM dès le départ. À la clinique, droit devant, la directrice Sophie Sénécal constate, quant à elle, une hausse de la judiciarisation des personnes en situation d'itinérance dans les dernières semaines, souvent en raison de délits mineurs. Cette hausse de la détresse, dit-elle, on la voit aussi dans bien des cas. Le métro n'a pas à être la solution, on le comprend. Mais il n'y en a pas nécessairement d'autres en ce moment. Le son de cloche est similaire pour Andrew Marocco, directeur général de la mission St. Michael, qui offre une halte chaleur de 60 places au centre-ville. Il faut des vraies solutions, une réelle coordination du réseau communautaire, mais surtout un plan hivernal qui répond aux besoins. Pour avoir des espaces publics en santé comme le métro, ça prend des espaces de vie pour tout le monde, dit-il. Vers un bilan complet. À la STM, on refuse pour l'instant de donner des entrevues sur l'analyse des mesures mises en place ces deux derniers mois. Nous en sommes toujours à réaliser le bilan en fonction des données que nous collectons présentement, donc nous n'avons pas d'informations à communiquer en ce moment. C'est limité à dire une porte-parole du transporteur, Laurence Houde-Roy, par courriel. Nous rencontrons justement les organismes en itinérance dans le cadre de notre bilan, ce qui nécessite de prendre le temps approprié. Nous présenterons ce bilan publiquement dès que possible, a-t-elle ajouté. Plusieurs réunions auront en effet lieu dans les prochaines semaines avec divers acteurs et intervenants fréquentant le métro afin de prévoir la suite des choses. Selon nos informations, de nouvelles formations en médiation et en sensibilisation aux réalités de l'itinérance sont en préparation pour les employés de la STM. Ce que nous souhaitons d'abord et avant tout, c'est qu'il y ait des mesures à long terme qui soient mises sur pied, particulièrement en vue de la prochaine période hivernale, afin que toute personne ayant besoin d'une ressource puisse y avoir accès et ainsi limiter les impacts sur la clientèle, conclut Mme Houde-Roy. C'était « Plus de détresse chez les itinérants selon des intervenants », un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 7 mai 2025 dans La Presse.
Et si on découvrait le don d'organes à l'école? Un texte de Lucie Dumont, paru le 21 avril 2025 dans La Presse. Le don d'organes et de tissus devrait faire l'objet d'un consentement éclairé, et la réflexion à ce sujet doit commencer dès l'adolescence, plaide l'autrice. Lucie Dumont est présidente de Chaîne de vie. À l'heure où un projet de loi sur le don d'organes et de tissus est à l'étude à l'Assemblée nationale, une occasion historique se présente à nous. Bâtir enfin une véritable culture du don d'organes et de tissus au Québec par l'éducation. Depuis plus de 10 ans, l'organisme de bienfaisance Chaîne de vie agit en milieu scolaire pour éduquer les jeunes de 15 à 17 ans au don d'organes et de tissus. Dans le cadre du cours d'anglais, langue seconde, les jeunes réfléchissent, débattent, amorcent des discussions et deviennent des acteurs de changement au sein de leur famille et de leur communauté. Et ça fonctionne. C'est ce que confirme un rapport d'évaluation mené par 2 chercheuses universitaires et publié en septembre 2024. Leur conclusion est sans équivoque. Les enseignantes et enseignants l'adoptent, les élèves s'y intéressent et les familles en parlent. Parmi les moyens étudiés par la Commission de la santé et des services sociaux pour faciliter le don d'organes et de tissus, figurait le passage au consentement présumé, souvent présenté comme une solution simple. Nous saluons la décision des membres de la Commission qui ont choisi de ne pas aller de l'avant avec cette mesure. Cette position s'explique notamment sur des données préoccupantes. Une étude publiée en octobre 2024 sur l'expérience de l'Angleterre révèle une augmentation des refus de famille, une méfiance accrue de la population et une démobilisation des équipes médicales. 2 autres éléments fondamentaux ont été soulevés. D'une part, si l'État décrète que nous sommes tous donneurs par défaut, le don perd sa nature profonde, celle d'un geste libre et volontaire. D'autre part, un consentement ne devrait jamais être présumé, mais pleinement éclairé et clairement exprimé. Le respect du consentement fait partie de l'éthique d'une société respectueuse des droits et libertés individuelles. La Commission, à l'unanimité, en arrive à une recommandation forte. Le Québec doit déployer plus d'efforts pour sensibiliser et éduquer la population sur les bienfaits et la portée du don d'organes et de tissus. C'est par l'éducation que se transforme la société, et c'est l'éducation qui fait naître des citoyennes et citoyens informés, solidaires et plus altruistes. Le programme Chaîne de vie, présenté lors de la Commission, en est la preuve vivante. Le témoignage de Daphné, une ancienne élève marquée par le programme il y a plus de 10 ans, montre jusqu'où peut aller une jeunesse bien informée et engagée. Un tel Québec est à notre portée. Mais pour qu'une véritable culture du don y prenne racine, ça prend tout le monde. C'est à l'école que tout commence. Puis, le message se propage dans la famille, dans la communauté, dans toute la société. Une culture du don, ça se sème à l'école et ça grandit avec chacun de nous, En cette semaine nationale de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus, soutenons l'éducation aux dons d'organes et de tissus dans nos écoles. Discutons-en à la maison. Faisons entendre notre voix auprès de nos élus. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons arriver à prioriser l'éducation aux dons d'organes et de tissus en milieu scolaire, dans notre avenir collectif et ainsi sauver plus de vies et aussi améliorer la qualité de nos vies. C'était « Et si on découvrait le don d'organes à l'école », un texte de Lucie Dumont, paru le 21 avril 2025 dans La Presse.
Décès du dramaturge et essayiste Jean-Claude Germain. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir. Homme de théâtre, conteur, essayiste, polémiste, Jean-Claude Germain est décédé. Truculent personnage, la pipe toujours accrochée au coin de la bouche, il était doublé d'un historien populaire de premier plan. Il est décédé à Magog le 24 avril 2025, où il résidait depuis quelques années, après avoir passé presque toute sa vie à Montréal. Une salle du Centre du théâtre d'aujourd'hui porte son nom. En 1969, il a donné une voix toute québécoise à ce théâtre qui venait à peine de naître. Sylvain Bélanger, directeur artistique de l'institution, affirme que son regard était vraiment très cher, vraiment très lucide. Il l'était pour toute l'évolution de la dramaturgie au Québec, ajoute-t-il. Les termes « dramaturgie québécoise » à son époque, ça avait vraiment été vu comme quelque chose de pas seulement audacieux, mais de quelque chose de baveux et d'un peu drôle. Une langue politique. En 1969, Germain a fondé le théâtre du même nom. Partisan de l'histoire des petits et des sans-grades, passionné par la parole populaire, il aura été, avec Michel Tremblay et le Grand Cirque ordinaire, l'un des nouveaux piliers sur lesquels s'est bâti le théâtre québécois contemporain. On lui doit des créations comme « Les enfants de Chénier » dans un autre grand spectacle d'adieu en 1969 et une vingtaine de pièces qu'il a signées, dont « Les hauts et les bas de la vie d'une diva », « Sarah Ménard » par eux-mêmes en 1974 et « Un pays dont la devise est « Je m'oublie ». Jean-Claude Germain donnait un tour plus politique à la langue que Michel Tremblay, raconte Victor Lévy-Beaulieu, joint à Trois Pistoles. On était ensemble des polémistes de la langue. On faisait des attaques coup de poing avec Jean-Claude. C'est l'autre journal, l'imprimé auquel il a collaboré de 1994 à 2021, qui a annoncé le premier son décès. Jean-Claude Germain prenait volontiers l'autobus depuis les cantons de l'Est pour venir corriger les épreuves de ce journal auquel il restait très attaché. Journaliste, il a travaillé au début des années 1960 au Petit Journal. Il s'y était frotté à des personnages comme Jean-Charles Harvey. On s'est connus au Petit Journal et on est restés de bons amis, d'autant que Nicole Leblanc, sa femme à l'époque, est née la même date que moi. Il va aussi publier dans les pages du quotidien La Patrie. Historien populaire. Passionné par l'histoire, vulgarisateur exceptionnel, Jean-Claude Germain s'est employé à retracer l'histoire de Montréal au bénéfice des auditeurs de la radio à l'occasion du 350e anniversaire de la ville. Jour après jour, pendant toute une année, c'était un travail immense. Je travaillais comme un fou, la tête dans les livres, pour produire au rythme d'un journaliste, mais un journaliste qui se serait penché sur le passé plutôt que l'actualité. Il en a tiré deux tomes de chroniques, Le Feuilleton de Montréal, 1994. Il publiera plus tard Nous étions le Nouveau Monde en 2009, 2011, 2016, où il embrasse aussi l'histoire. Très attiré par le 19e siècle québécois, il en était un très fin connaisseur. Pour la radio, il a proposé de longues séries sur différents personnages, se servant d'eux comme de prétexte pour éclairer des pans entiers de la vie collective. il vouait une admiration considérable à Louis Fréchette, regrettant que ce poète ait souvent été réduit à tort à la taille d'un simple imitateur de Victor Hugo. Jean-Claude Germain savait se transformer en un polémiste redoutable, tout en étant animé d'une fougue de conteur sans pareil qui aimait remettre en cause le pouvoir établi, empesé dans ses uniformes et ses rituels. Il cherchait les éclairs de luminosité, les lignes qui permettent le départage entre l'existence et la non-existence des peuples. La composante culturelle de notre destin colonial était l'objet de toutes ses attentions. Il était doté d'une culture quasi encyclopédique qui tranchait avec ses allures anticonformistes, que soulignait par exemple son nœud de cravate, toujours fait d'une invraisemblable manière. Il a fait ses études au Collège Sainte-Marie, une période de sa vie dont il parle abondamment dans les tomes de sa chronique de la bohème montréalaise. Étudiant à l'Université de Montréal, notamment en histoire, il a fondé le Théâtre Antonin Artaud. Il va collaborer par la suite à la revue Dimension, en compagnie de Victor Lévy-Beaulieu. Il est un des fondateurs avec le même partenaire du journal irrévérencieux L'Illettré. Il va aussi publier des chroniques dans le magazine Maclean. Comédien, il a joué au cinéma et à la télévision, notamment dans L'Héritage, un téléroman de 86 épisodes signé par son ami Victor Lévy-Beaulieu. Pendant des années, il a enseigné à l'École nationale de théâtre. Au nombre de ses anciens étudiants, Dominique Champagne indique que cet inénarrable gymnaste intellectuel jouissait d'une érudition encyclopédique qui se déballait jusqu'au délire, dans une avalanche de références littéraires, historiques, poétiques, qui lui permettaient de lire et d'interpréter la modernité. Pour René Richard Cyr, un autre de ses élèves, si on a une dramaturgie nationale plurielle, vivante, large et vibrante, c'est parce qu'il y a eu des défricheurs, des pionniers, des entêtés de la trempe de Jean-Claude Germain, lequel occupe la plus grande place parmi les passeurs de ce joyeux combat. Prix Victor Morin 1977 pour sa contribution au théâtre québécois, patriote de l'année 1993 de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, prix Fleury-Mesplette 2001 pour sa contribution au progrès de l'édition, il a été nommé membre de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Le public le connaissait aussi parce qu'il a été, durant de nombreuses années, le président d'honneur du Salon du livre de Montréal. C'était « Décès du dramaturge et essayiste Jean-Claude Germain », un texte de Jean-François Nadeau paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir.